Chapitre 31. Là, je crois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'est un peu lâche de ma part de m'être sauvé ainsi. Mais ce n'était pas grand-chose non plus, un petit bisou sur le coin de la joue. Un petit bisou comme ça, ça n'engage à rien, n'est-ce pas? Je peux encore faire marche arrière, non? Ça m'a pris sans réfléchir. J'étais tellement émue par ses dessins que j'avais envie de le remercier. Je n'ai rien trouvé d'autre. Le problème, c'est que je sais qu'il attend plus, et que maintenant il va croire que c'était l'apéritif avant le gros repas. Je ne suis pas naïve non plus. Il est d'une grande discrétion dans son plan d'attaque, pas comme Justin qui, avec le recul, avait sorti l'artillerie lourde et moi le drapeau blanc. Il n'empêche, un homme qui me tourne autour, même secrètement, je le sens. Sûrement mon côté ophtalmo qui voit à l'intérieur. Non, pas jusqu'au slip. Même Suzy m'a dit qu'il était amoureux de moi et que ça se voyait gros comme une ferme. Elle détourne toujours les expressions qu'elle entend. Ça me fait rire. Qui vole un œuf, vole une vache. Vouloir le beurre et l'argent du fromage. Avoir les yeux plus gros que les fesses. Et ma préférée, il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir achetée. L'autre soir, elle m'a demandé quand est-ce que j'allais l'embrasser. Parce qu'elle, avec son amoureux, il s'était déjà embrassé dans la cour. Ah, si les histoires des grands étaient aussi simples et jolies que celles des petits. Et puis, les jours ont passé, sans nouvelles. Le petit bisou datait de samedi. Je pensais qu'il passerait dimanche. Personne. Le mercredi, non plus. Même pas un message. Quelle drôle d'idée aussi que de se quitter sans jamais fixer la fois suivante. Peut-être pour ne pas s'obliger à admettre qu'il y aurait une fois suivante, donc un début de relation. J'ai commencé à m'inquiéter, et ça, c'était vraiment le signe que j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Je craignais qu'il lui soit arrivé quelque chose. Qui penserait à me prévenir, moi? La minute d'après, j'imaginais qu'il ne voulait plus me voir. Et je repensais à ce salaud de Justin qui était parti sans prévenir. Mais je n'y croyais pas. Pas lui. Pas maintenant, pas comme ça. Justin n'avait rien au fond de lui, sauf de la lâcheté. Alors qu'Olivier... Et puis, nous n'avions pas encore consommé. S'il était de ces machos qui se barrent après avoir eu ce qu'il voulait... Ça ne collait pas. De la peur, alors? Peur de s'engager, de s'attacher? Peur de ma situation bancale ou que l'échafaudage lui tombe sur le coin de la figure? Le vendredi après-midi, j'ai téléphoné à la brigade en demandant à lui parler. C'est à quel sujet, madame? C'est pour l'enquête de Jean-Raphaël Martin. Un petit mensonge n'a jamais tué personne. Je peux prendre le message? Monsieur Delombre n'est pas là.
Il n'est pas là?
Je voudrais lui parler à lui, directement. Quand revient-il?
Je ne peux pas vous répondre. Il a posé des congés toute la semaine. Nous ne savons pas encore quand il revient. Une urgence familiale, je crois.
J'étais rassurée. Il ne lui était rien arrivé. Mais pourquoi ce silence? Si c'était familial, c'était forcément Madeleine. Ou l'un de ses parents? Revenu? Mort? Je suis allée faire la traite préoccupée. Les vaches étaient nerveuses. C'est dingue comme elles peuvent sentir mes états d'âme. Pas besoin d'un psy. J'observe mes bêtes pendant la traite et je sais comment je vais. Et puis mon psy, c'est Antoine. Je l'ai consulté après le dîner.
Ah, il te rend la monnaie de ta pièce. Tu l'as tellement fait attendre. Peut-être qu'il te teste.
C'est toi qui m'as dit de le laisser mariner.
Bah oui, alors. Ma stratégie n'excluait pas qu'il te laisse mariner aussi. Ça a du bon, non?
Non.
Mais si. Tu es en train de t'inquiéter. Si tu n'en avais rien à foutre de lui, tu n'y penserais même pas.
Et alors?
Et alors? T'es amoureuse et tu sais ce que ça veut dire?
Non.
Que j'ai encore raison. C'est rageant, hein?
Oui.
Moi, je ne m'en lasse pas.
Et en attendant, je fais quoi?
Ça.
Quoi, ça?
Tu attends.
J'ai couché Suzy, qui me demandait quand Olivier allait revenir nous voir. Elle avait déjà le temps long, plus que moi. Quoique, à y réfléchir, j'ai pris un bain pour me détendre. Bouillonnant, il aurait été d'un grand secours pour mon nœud dans le ventre. Moins que le nouveau tracteur pour le travail à la ferme. C'est la vie.
Et puis je suis redescendue me changer les idées et provoquer la fatigue en complétant quelques papiers pour l'exploitation à la table de la cuisine. Des dossiers pénibles où la concentration est indispensable. Si je pensais à autre chose en cochant les cases, je risquais de me tromper et je ne recevrais pas le chèque de subvention à la fin de l'année. L'appât du gain pour fuir l'anxiété et le manque. Enfin, au point où en sont les agriculteurs, ce n'est plus l'appât du gain qui les motive pour remplir les formulaires, c'est l'instinct de survie. Il n'y a pas que les vaches dans la vie. Le paysan est aussi comptable, secrétaire, météorologue, vétérinaire, mécanicien, botaniste, tout ça pour une bouchée de pain. Du moins, quand il gagne de l'argent. Parfois, il en perd. Si, si, il en perd malgré le travail titanesque qu'il fournit chaque jour. Les présidents successifs ont beau tapoter le cul des vaches au salon de l'agriculture pour faire semblant d'aimer les bouseux, ils ne font quand même rien pour stopper l'hémorragie. Pas assez de jeunes pour remplacer ceux qui partent à la retraite. Alors trouver quelqu'un pour prendre la suite du type qui s'est pendu dans la grange parce que c'était trop dur de boucler les fins de mois, ou de finir vieux garçon, étant donné qu'aucune femme ne voulait venir vivre à la ferme dans la merde et la pauvreté, à part peut-être une Slovaque. Et encore. Moi, je m'en sors plutôt bien. Je transforme et je fais de la vente directe. Personne pour m'imposer un prix pour mon lait. Je calcule ce qu'il me faut pour vivre. Et puis les gens sont prêts à payer le beurre un peu plus cher avec un joli sourire de la crémière. Alors je fais des jolis sourires. Et j'ai de la peine pour tous les autres. Aux réunions du syndicat, je suis saisie d'une sorte de mélancolie enragée quand je vois un grand gaillard de 100 kilos qui prend la parole en commençant virulent et qui finit par ne plus prononcer qu'une syllabe sur deux parce qu'en même temps il essaie d'avaler ses larmes qui, tellement nombreuses, finissent par sortir quand même. Au bout du compte, il pleure comme une madeleine parce qu'il ne sait plus comment faire. De toute façon, il n'en a rien à foutre de ce que vont penser les autres qui, au passage, ravalent les leurs en silence parce que pleurer devant tout le monde, c'est l'étape avant de laisser une lettre sur la table de la cuisine et aller se tirer une balle dans le grenier. Ça me donne envie de monter à Paris le drapeau français dans la main et un bonnet phrygien sur la tête pour aller mettre un coup de pied au derrière du ministre de l'Agriculture qui ne connaît de celle-ci que ce qui est écrit dans les rapports souvent fournis par des gens qui, soi-disant, n'y connaissent rien à notre travail, soit ont des intérêts contraires à notre profession. Il dirait quoi, le ministre, de se lever tous les matins 365 jours de l'année et même 366 les années bissextiles, bosser 15 heures par jour, dans le froid en hiver avec des gerçures au coin des ongles qui vous font hurler chaque fois que vous vous lavez les mains ou que vous vous cognez bêtement le doigt, dans la chaleur de l'été, à prier que l'orage qu'on entend gronder au loin ne vienne pas pile sur le foin qui termine de sécher, tout ça pour entendre le banquier qui est désolé, mais ne peut pas faire autrement que de mettre toutes les semaines des commissions d'intervention parce que le compte est désespérément à découvert. En plus des agios, hein, le vautour. Mais je n'ai pas d'aussi joli sein que Marianne. Ça a dû jouer, non, ces jolis seins dans la Révolution. Voilà, ce soir-là, j'étais dans mon renfrognement habituel, celui qui s'installe dès que je pense à l'avenir de la profession. Quand le téléphone a sonné. C'est Olivier. Je n'étais même pas soulagée. Sa voix me filait des frissons dans le dos. Ça ne va pas ? Madeleine est morte. Il m'a dit ça sans émotion, froidement, la carapace pour se protéger. Ne pas montrer qu'en dessous c'est fragile, vulnérable. Mais je savais qu'en dessous c'était fragile et qu'il devait se noyer dans un océan de larmes. Tout garder à l'intérieur pour ne pas se dévoiler. Typique des hommes. Même Antoine. Ça doit venir du chromosome Y. J'ai attendu pour lui laisser une chance de parler, mais il avait besoin d'aide. Que s'est-il passé? Une maladie du sang, foudroyante. Je ne peux pas beaucoup parler, mais j'avais besoin de vous le dire. Je suis désolée. Vraiment. Ça me fait beaucoup de peine. Quand a lieu l'enterrement?
Lundi après-midi.
Pardon de ne pas avoir appelé avant. Ce n'est rien. Et il a raccroché. Je suis restée un long moment avec le combiné sur l'oreille. J'avais envie que France Télécom invente sur le champ le moyen de me transporter dans les fils
jusqu'à lui pour le serrer fort. Tout ce qu'on me proposait, c'était un tut-tut rapide.
Tu peux raccrocher, Marie. La communication est finie. La vie de Madeleine aussi.
J'étais triste. Triste pour Madeleine. Elle semblait tellement gentille, moi qui voulais la rencontrer. Triste pour Olivier. Il n'avait qu'elle. Je savais que ça le ravagerait. Il ne s'y attendait pas. Il n'était pas prêt à la perdre. Il était sensible et fragile sous sa carapace. Et si seul. Si seul. Un petit renard qui avait poussé de travers et qui, en plus, venait de se faire écrabouiller par un camion.
Au secours, mémé. Les blessures graves comme ça, je ne sais pas faire.
Moi, je m'occupais des oiseaux venus se cogner contre la vitre, un peu sonnés. Des chatons tombés du grenier dans la paille. Des hérissons prisonniers du passage canadien à la sortie de la ferme. Mais là...